Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de First Attack. First Attack, c'est les premiers pifs, les premiers hits sur les jeux qui viennent de sortir. Et le jeu dont on va vous parler aujourd'hui, c'était une sortie assez attendue puisqu'il s'agit de BlazBlue Cross Tag Battle. Je vais en parler avec mon invité donc qui est Nathan. Bonjour Nathan.
Bonsoir, bonjour, oui plutôt bonjour, parce qu'on sait pas quand
est-ce qu'il fait ça. Il est pas encore assez tard.
Non, c'est sûr, même pour nous, mais c'est Wick qui m'a... Je me suis fait embrouiller, bref.
Alors, bah, t'es là pour parler de ce BlazBlue Cross Tag. Alors toi, t'es plutôt un joueur de BlazBlue, t'aimes plutôt le jeu, il me semble.
Alors, soyons honnêtes, je suis pas un gros joueur de BlazBlue. C'est-à-dire que, comme tout le monde un petit peu, quand BlazBlue est sorti, j'ai joué à Calamity Trigger, j'ai surtout joué à Continuum Shift et Continuum Shift Extend. Chrono Fantasma, j'y ai jamais touché, je crois. Et j'ai rejoué ensuite quand la dernière version de Central Fiction est sortie. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, en fait. Par contre, j'ai beaucoup joué, ce qui va nous intéresser tout à l'heure, à Persona 4, enfin beaucoup. J'ai joué un peu comme tout le monde, à Persona 4 Arena, un peu à Ultimax. J'ai joué à Under Night in Birth et Under Night in Birth Exelatest. Et voilà.
Ok. Donc tu connais les différents univers, oui, parce qu'on focalise beaucoup sur BlazBlue, peut-être à cause du titre, mais il ne faut pas oublier que ce jeu est un crossover entre 4 univers, dont 3 qui sont des jeux de baston. Donc on a dit BlazBlue, Persona, Under Night in Birth, et il y a un quatrième larron qui vient un peu de nulle part, qui est Ruby, qui est en fait un animé, et qui n'est même pas un animé japonais. En fait, c'est un truc assez bizarre comme projet, et c'est l'archétype du projet cross-média, quoi.
C'est ça, en fait Ruby c'est une série très, en 3D, c'est-à-dire c'est un anime en 3D en vrai, qui raconte les aventures de 4 nanas qui forment une team et chacune, c'est un espèce d'univers comme on en voit beaucoup aujourd'hui qui mixe heroic fantasy, vie de tous les jours, technologie, etc. C'est pas si éloigné de BlazBlue en fait quand tu regardes bien Ruby.
En fait c'est BlazBlue avec le côté contemporain en plus quoi.
C'est ça, on pourrait dire, même si c'est un petit peu exagéré. Encore une fois, c'est un mélange, tu sais, de science-fiction, fantasy, manga, animu, etc. Quoi.
Voilà. C'est du gloobie-boulga, quoi.
Un petit peu, mais bon, ça a trouvé son public. Hein. J'ai regardé hier le compte Twitter de Rooster Teeth, donc les créateurs de Ruby. Ils sont quand même à plus d'un million de followers sur Twitter, donc tu vois, ils ont quand même ils ont une grosse communauté, donc c'est intéressant, ouais.
Alors, le jeu lui-même, on l'a dit, c'est le rassemblement de tous ces univers, et donc bah, c'est plusieurs personnages de ces différents jeux. Alors, on va pas faire la liste de tout le monde parce qu'on n'est pas sorti. Est-ce que toi, tu trouves que justement cet assemblage, cet amalgamage fonctionne bien ?
Alors, c'est un peu particulier parce que la raison pour laquelle il faut le faire, ils ont fait ce jeu, soyons très clairs, c'est un jeu de facilité. On est dans des crossovers, tout comme Marvel vs Capcom existe ou Capcom vs SNK existait. On est dans un jeu qui réutilise énormément d'assets, comme on dit en anglais, de création des précédents jeux. Donc on retrouve tous les sprites de BlazBlue, tous les sprites de Persona, c'est le même moteur d'ailleurs, et tous les sprites d'Under Night in Birth, qui s'ils sont faits par une autre compagnie, sont quand même à la même résolution. Donc on a tout ça, et à côté de ça, il y a des personnages originaux, donc les personnages de Ruby, qui n'ont jamais été dans un jeu de baston. Et donc tout est réutilisé, les sprites, les sons, logiquement, vu qu'il y a les sprites, les décors, également, la bande-son, les effets sonores, tout est réutilisé en fait. Donc on se retrouve finalement avec un jeu... On a la sensation d'avoir déjà vu, parce que hormis les barres de vie et les barres de super qui changent, le reste, esthétiquement, visuellement, c'est exactement pareil que les autres jeux. Si on a joué à un des autres jeux, si on enlève les barres de super, c'est difficile de distinguer, tu vois. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur à quoi ça ressemble et comment ça se présente. Alors évidemment, après, t'as des menus différents, t'as un truc comme ça. Ils ont repris l'idée, tu sais, de l'espèce de menu dans lequel tu peux te balader qu'il y a dans Dragon Ball, cette espèce de menu lobby, on va dire. Le problème de tout ça, en fait, c'est que c'est le premier, je pense, défaut du jeu. Il n'a pas beaucoup de défauts, ce jeu, mais finalement, son plus gros défaut, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite, selon moi, c'est qu'en fait, c'est un jeu qui est franchement, en tant que produit, et pas bandant. Voilà, c'est... Tu vois, si tu prends les anciens crossovers ou de séries connues comme du Marvel vs Capcom, du X-Men vs Street Fighter, du Capcom vs SNK, il y avait toujours un travail qui était de « Ok, on fait un crossover, ok, on réutilise des sprites ou pas, parce que Capcom vs SNK, ils ont recréé, mais par exemple, Marvel vs Capcom, ils réutilisaient les sprites de Children of the Atom, donc les jeux X-Men, et de Street Fighter Alpha, tu vois. » Mais ils te créaient des nouveaux décors, une nouvelle bande-son, des nouveaux doubleurs, des nouveaux effets. Il y avait un côté genre, genre nouvel univers, tu vois, un petit peu.
On te propose quelque chose en plus.
Voilà, tu vois, c'est Capcom versus SNK 2 pourrait très bien, aurait très bien pu réutiliser des stages des anciens Street Fighter, mais à la place, on a eu tous ces stages en 3D avec le fameux stage du désert avec les 4x4 qui te sautent dessus, etc. Et ça, en fait, ça participe à créer une identité dans le jeu. La bande-son aussi aide beaucoup dans ce cas-là, les décors et la bande-son. Parce que, voilà. Et là, le problème de BlazBlue Cross Tag, c'est que finalement, le jeu n'a pas vraiment beaucoup d'identité et on a l'impression d'y avoir déjà joué quand on le regarde, en fait.
En fait, est-ce que c'est pas un problème de liant ?
Un petit peu, oui. C'est-à-dire que si tu parlais, quand on en discutait un petit peu en off, on parlait de patchwork. C'est un petit peu ça, mais le problème, c'est que c'est pas parce que tu utilises, j'en sais rien, la même matière pour ton patchwork que les motifs s'assemblent bien, tu vois un petit peu le truc. C'est un peu le problème, en fait. C'est que tout d'un coup, tu vas jouer un perso de BlazBlue dans un stage de Persona avec la bande-son d'Under Night in Birth, t'es là...
Ouais, tu sens que l'alchimie prend pas, quoi.
En fait, à la fois elle prend, à la fois elle prend pas. Parce qu'en fait, ça, les trois séries, quatre séries sont assez proches finalement, esthétiquement, thématiquement, pour fonctionner ensemble. Mais ça reste moins bien que chaque série prise individuellement, moins cohérent que chaque série prise individuellement. Donc finalement, tu te retrouves avec un jeu où tu te dis, bon, bah ouais, ok, c'est vraiment... il s'appelle Cross Tag Battle, le jeu, pour une bonne raison, qui est que vraiment, c'est un crossover, et un crossover jusqu'au bout, vraiment, des stages, des musiques, etc. Pour moi, c'est le plus gros défaut du jeu, c'est qu'il n'y a rien à découvrir, comment dire...
En fait, le fait de combiner les éléments n'enrichit rien. Est-ce que c'est pas aussi lié au fait que, bah, comme ils sont très similaires, finalement, l'un plus l'autre ne fait que te donner exactement la même chose avec un peu plus de perso, mais tu vas retrouver des équivalents et du coup, ça va se neutraliser.
Un petit peu. Le truc, tu vois, c'est que... prends par exemple Marvel vs Capcom Infinite. Malgré tous ses défauts, ce jeu a quand même l'avantage, par exemple, d'avoir une bande-son refaite. Alors, pas toujours super, mais ils ont essayé. Des stages qui mélangent les deux univers, etc., etc. Là, on a juste en fait l'impression de voir, aussi bien dans la présentation, le truc, que c'est un jeu BlazBlue qui a rapporté des copains, qui ont eux-mêmes rapporté leur stage, leur bande-son, et c'est tout. En fait, vraiment, il y a un côté, en termes de feeling, c'est-à-dire que tu lances le jeu, qu'est-ce que tu ressens en le voyant ? Bah, déjà vu, quoi. Une sensation de déjà vu, un petit peu.
D'accord. Voilà. Alors, en parlant de ressenti, on va parler du gameplay quand même.
Bien sûr.
On en avait parlé aussi. C'est quelque chose de très simplifié et pas forcément à mal par rapport à ce qui existe. On va parler plutôt de BlazBlue parce que c'est un peu l'un des socles de base. On est sur du gameplay alors que moi j'appelle à deux boutons et demi.
Oui, c'est pas bête.
Parce qu'en fait, on va dire un point faible, un point fort. Et
en fait, on a faible, moyen, fort, sachant que si tu fais tes coups spéciaux avec faible et moyen, c'est des coups spéciaux normaux. Si tu le fais avec fort, ce sont des coups spéciaux en X, donc qui consomment de la barre. Ça, c'est quelque chose qui vient en fait d'Under Night in Birth et que Arc System Works commence à copier. Ça vient de Melty Blood, Under Night in Birth. Oui. Et en gros, c'est un layout de boutons qui est très facile à comprendre. Il est dans Dragon Ball d'ailleurs, c'est le même que Dragon Ball. Et généralement, ce que tu as en bonus, c'est un ou deux boutons qui servent à des capacités spéciales ou bien à des mécaniques de jeu, donc universelles, quoi.
Et là, la mécanique, c'est le tag.
C'est le tag, c'est ça. Alors, on a deux boutons. Donc, en plus, on a un bouton pour changer de perso et un bouton pour appeler un autre personnage sur le décor pendant un court instant, sachant qu'on peut l'appeler de trois manières différentes si on ajoute des directions. Donc voilà, donc on se retrouve finalement avec un Marvel versus Capcom, quelque part, de la vieille époque, mais avec des univers différents, quoi, anime, on va dire.
Avec plus un esprit anime. Alors, moi j'ai trouvé que cette simplification, elle avait un avantage, c'est que bah, tu te prends pas la tête et que le jeu est très électrisant en fait. Tu bourres, même la première fois que tu joues, tu vas vraiment envoyer la sauce et instinctivement, si tu connais un tout petit peu les jeux de baston, tu vas faire des enchaînements vraiment spectaculaires, tu vas vraiment déglinguer la barre de l'ennemi. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que du coup, bah, les combats sont très très brefs.
Alors moi je trouve pas ça dommage, on va dire. C'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu dis, c'est un jeu qui est très facile à prendre en main. Les combos, généralement, c'est t'appuies trois fois sur un bouton, t'appuies trois fois sur un bouton, tu fais un coup spécial et le combo il est fini. Pour presque tous les persos, c'est comme ça. Même si évidemment les max damage et enfin, les combos avec des dégâts supplémentaires sont plus compliqués, mais on est dans un jeu qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple, même que Dragon Ball, tu vois, je trouve, en termes de combos. La complexité vient du fait que tu peux appeler des assists, donc ton copain là, pour t'aider à allonger tes combos, mais même ça, c'est pas dur en fait. C'est pas aussi difficile qu'un Marvel versus Capcom.
Le timing est moins
Donc
rigoureux.
le timing est beaucoup moins rigoureux, etc. Et on touche un peu le nœud du truc avec ce que tu disais, des matchs qui sont très courts. C'est qu'en fait, c'est un jeu qui a une saveur un peu old school, vraiment, vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Je sais pas si tu veux que j'explicite, mais en
Ah non,
gros,
mais
c'est.
vas-y, mais moi, alors, juste avant que tu dis ça, moi, ça me
Ouais.
faisait penser quand j'y ai joué à un moment au côté punitif et rapide des matchs dans 2X.
Exactement, c'est là que je veux en
Ah
venir.
bah voilà, j'ai fait une remarque
Exactement.
pertinente du coup.
On est en fait, on est sur un jeu qui n'a absolument pas vocation à être un titre qui épargne ses joueurs ou qui a peur d'être injuste. Pourquoi? Parce qu'en fait, il reprend une vieille tactique d'équilibrage, on va dire, qu'on trouve plutôt dans des anciens jeux de baston, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, qui est que si tout est pété, alors tout est équilibré. Alors c'est risqué de
Oui,
faire
non, mais
ça,
c'est ça se
mais en
tient.
gros, c'est un peu le principe. C'est-à-dire que si tu regardes le jeu, tous les persos peuvent faire une demi-barre très facilement, tous les assists sont forts, les hitbox, les hurtbox, tout ça c'est très fort, les dragons sont sur deux boutons. Les chopes, le personnage court vers l'avant, t'attrape, les chopes sont combattables, les dégâts vont très vite, le système de comeback, quand il te reste plus qu'un seul personnage, tu peux activer un système de comeback dont la puissance va dépendre du nombre de fois que tu as utilisé tes
Tes assists
assists ou tu as
avant,
changé de personnage. Ça fait que ta barre de super monte jusqu'à 9 niveaux au lieu de 5 normalement, où tu peux enlever quasiment une demi-barre de vie en gratte avec un combo dans la garde,
ouais.
enfin
Tu
des
peux même
choses
faire
comme
un
ça.
instant kill.
Tu peux faire un instant kill, effectivement, si tu as 9 barres et qu'il te manque un perso. Il y a beaucoup de choses comme ça. Enfin, tu vois, toutes les supers aussi sont invincibles. C'est-à-dire que tu te dis, oh là là, on me mitraille de projectiles surviolents, t'envoies la super, tu passes à travers tout, t'enlèves une tonne de vie, le match est fini. Enfin,
C'est
il
le
y a
plaisir
plein
du
de
pif
choses
en
comme
fait.
ça. Je dirais pas que c'est le plaisir du pif, c'est juste qu'en fait, tout fonctionne un peu à l'excès. Et tout s'équilibre comme ça. C'est-à-dire que les projectiles sont très forts, ok, mais la plupart des personnages ont des furies ou des coups qui permettent de passer à travers les projectiles. Par exemple, le dragon, il est sur deux boutons, et donc il autocorrecte, c'est-à-dire que tu ne peux pas le faire dans le mauvais sens, tu vois. Comment dire, si tu le gardes, si tu gardes le dragon, celui qui a fait le dragon ne peut pas burster. Par exemple,
Ouais.
t'as un burst, mais le burst, tu peux le deviner et le
Et
punir,
anticiper et punir, ouais.
etc., etc. Donc en fait, toute chose qui est très forte a une contrepartie qui est elle-même très forte. Donc on retrouve, comme tu disais, ce côté un peu 2X, un petit peu old school, où les boules étaient très fortes, ok, mais par contre, si t'es au corps à corps et que ton perso est fort au corps à corps, bah tu vois, etc., etc. Voilà.
Alors, on voit que le gameplay, même s'il a des particularités, il peut quand même fournir une dose de fun assez conséquente. Moi,
Oui.
par contre, ce qui m'a beaucoup plus travaillé sur le jeu, c'est déjà bah, son manque de générosité. Tu vas me dire ce que tu en penses, notamment au niveau des options de jeu. Si on exclut le online, on a un mode story qui est affreux, qui est typique BlazBlue, je trouve. Où c'est blablabla, des dialogues, en plus dialogues nullissimes, parce que comme ils sont dans un esprit crossover, bah, c'est un peu rigolol.
Ah, c'est complètement second degré, voire
Voilà.
même, des fois, c'est à la limite de
C'est
clin d'œil à
méta.
des mèmes, tu vois,
Ouais.
de ces univers-là, quoi.
Et donc, bon, bah, toi, tu pousses le bouton à toute vitesse pour faire passer les dialogues pour arriver aux phases de combat. Je trouve qu'ils essayent de faire ce que fait beaucoup NRS, c'est-à-dire des story modes où on va te placer alternativement dans les différents persos. Sous-entendu, ça te permet de découvrir les persos en te forçant un peu à les jouer. Mais comme l'histoire est racontée non pas en cinématique, mais avec des artworks alors, qui sont très jolis. Hein,
c'est un visual novel, hein, comme tous les jeux de ce genre-là, de
voilà.
toute façon.
Et du coup, c'est pas très immersif.
Non,
on n'a pas envie de s'attarder sur les dialogues. Alors, les acteurs de doublage japonais sont excellents, les Américains me rendent fou.
Ça dépend des jeux. Les doubleurs d'Under Night in Birth, qui sont plus récents, sont bons. Les doubleurs de Ruby, les doubleuses de Ruby sont infectes.
C'est horrible.
C'est horrible. En anglais, c'est horrible. En japonais, c'est parfait, mais alors en anglais, horrible. Ouais, t'as raison, je trouve, sur la générosité. Parce que par exemple, bon, on va faire un mini spoil, mais il y a un boss final non jouable dans le mode histoire. Et tu vois, plus j'avançais dans le mode histoire, plus je me disais, c'est vraiment Marvel vs Capcom. J'aimerais bien un boss géant à la Marvel vs Capcom. Tu vois, un truc abusé. Et quand j'ai vu qu'il allait y en avoir un, j'étais là, genre, yes, comme ça. Et en fait, c'était tout nul. C'était un vieux truc en 3D avec des épées ou autre. Enfin, tout nul, le truc. Pas géant, pas impressionnant ni rien.
Que tu peux rattacher à aucun univers en plus.
Oui, en plus, oui. Donc ça m'a vachement déçu, comme toi finalement. Et puis il n'y a pas grand chose à collectionner dans le jeu. Hein. Il y a quelques artworks, il y a deux vidéos, des couleurs. Mais effectivement, c'est pas un jeu généreux. Il n'y a pas grand chose dedans. Et on peut peut-être même parler de la générosité du roster.
Ouais.
Je pense, puisque c'est un peu le nœud du problème. C'est que, enfin, juste pour. Avant qu'on parle de ça, clairement. Au niveau du gameplay, on n'a rien à redire. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est excessivement fun. Moi, qui suis un joueur old school, qui aime bien les trucs un peu pétés, tu vois, qui aime bien me dire, ah bah si ma Fury, elle est invincible, tu vois, c'est comme c'est un peu la différence, tu vois, entre avoir, tu vois, le démon d'Akuma, le Shingoku Tatsu d'Akuma.
Ouais.
Bah, tu vois, dans Street Fighter, les anciens, il est invincible pendant toute la durée. Dans Street Fighter 5, il y est pas. Et ça me rend fou. Tu vois, et c'est ça que j'aime bien, c'est on revient à ce côté, genre bon, bah si un truc il est invincible, il est invincible.
Il y a un peu de folie quoi.
Si c'est fou, allons-y jusqu'au bout. Donc en termes de gameplay, la manière dont tout s'accorde, genre tu peux appeler ton assist, mais pendant ton assist tu peux changer de perso, mais en même temps quand tu changes de perso, tu peux garder l'ancien perso, donc tu peux faire des combos à deux persos en même temps. Le côté, tu peux repousser l'adversaire si tu utilises de la barre, mais comme c'est la même manip que le dragon, si tu te loupes, tu fais un dragon dans le vent, donc tu peux plus burster. Enfin, tout ça est vraiment très très bien pensé en fait. C'est un très bon jeu de tag, très bien pensé vraiment. Mais comme tu dis, une fois que tu sors du gameplay, une fois que tu... Que tu sors de ça, tu te dis, bah en fait, il y a pas grand chose à faire, quoi. Il y a pas grand chose à faire.
Et tu peux pas t'investir dans le jeu parce qu'il y a rien qui te motive, en fait.
Ah bah hormis le jeu online et on va dire le versus offline comme ça, il y a pas effectivement, il y a pas grand chose, quoi. Voilà.
Le mode online, tu l'as testé ?
Non, j'ai pas eu le temps de tester encore. J'ai surtout fait du offline. Mais de ce qu'on m'a dit, ça marche plutôt bien. C'est la même chose que les jeux Arc System Works en général. Donc quand vous jouez avec quelqu'un de très loin, vous allez le sentir. Quand vous jouez avec quelqu'un qui a une connexion correcte, ça marche très bien.
A priori, c'est un peu comme ce qu'on avait dit sur Street 30e anniversaire avec Legacy. Si t'es dans des rooms, à moins vraiment d'avoir quelqu'un qui a une connexion très très pourrie, ça marche
honnêtement. Puis c'est un jeu, on va dire, qui a... Bah, tout est très facile à comboter, on l'a dit. Donc il n'y a pas de timing zéro frame ou de trucs comme ça qui font que tu vas drop ton combo. Hein. Ça n'existe pas. Même les assists tapent très large et très longtemps généralement. Donc tu peux t'en sortir facilement. Voilà.
D'accord. Alors pour finir, moi je voulais souligner un défaut qui, je trouve, est quand même terrible pour des jeux qui sortent en 2018. Là, je vais parler de la version PC, la version Steam, qui, lors de son lancement, a eu des bugs d'affichage ridicules qui étaient liés à des codecs.
Non, mais oui, bah
comment
alors après,
c'est encore possible quoi.
Bah le truc en fait, bon, on va passer très vite là-dessus, mais globalement sur PS4, il y a pas de souci, hein, le jeu il tourne et tout. Le truc c'est que sur PC, Arc, ils ont un seul mec qui dev leur jeu sur PC et bah voilà, ils ont un seul mec qui dev leur jeu sur PC et c'est une tâche énorme. Et en tant que développeur, honnêtement, je trouve ça
Que tu fasses des erreurs sur le truc, c'est pas ce qui me gêne, c'est que ces erreurs, c'est les mêmes défauts que tu avais à la sortie de Central Fiction, par exemple.
Ouais,
il y avait des défauts sur les affichages de certains effets spéciaux. du style quand les persos font appel à leur persona, donc il y a beaucoup d'effets de lumière. Et là, il y avait un bug, et limite, j'ai reconnu le truc comme étant « Ah bah tiens, c'est la même,
bah,
c'est
je, le même plantage, je, quoi. » Je peux rien te dire de plus que de ce que je sais. C'est un seul dev, voilà, et on peut dire ce qu'on veut. Enfin, le problème, c'est vraiment la direction d'Arc System Works qui traite.
C'est
fanbase PC, voilà. Le développeur,
c'est pas pour critiquer la personne, évidemment, mais voilà. C'est vraiment de dire, tu as sorti le jeu avec ce truc en l'état, et je peux pas concevoir que sur un playtest, les mecs, ils l'aient pas vu.
Puis bah après, il y a le dernier souci, on va dire, qui est la dose de DLC du jeu, évidemment. Ouais. Donc pour rappel, le jeu il sort à un prix réduit, c'est-à-dire qu'il est à 40€ je crois de base.
Ouais, entre 35 et 40€ ça dépend du support.
Voilà. Entre 35 et 40€ en fait, il y a un roster de persos correct, on va dire, mais pas si énorme que ça, et beaucoup de persos favoris ne sont pas dedans, quoi. Et le truc qui se passe, c'est que il y a un pack de DLC de personnages. En gros, ils vont sortir des packs de DLC de personnages. Donc, il y a 3 persos par pack. Et je crois qu'ils vont vendre chaque pack genre 5 balles. Mais si tu veux tout le roster, tu peux acheter tous les packs, absolument tous les persos, pour 20 balles. Donc, on se dit, ça ramène le jeu à entre 50 et 60 balles. Bon, pourquoi pas ? Tu vois, pourquoi pas ? Moi, je me disais, bon... Oui, c'est un test, on va dire, de paiement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont juste vouloir le jeu comme ça, ils le paieront 20 balles en moins, bon, tant mieux. Après, je trouve que le roster n'est pas suffisant, même à 40 balles, en toute honnêteté, et que la version à 60 est quasi obligatoire. Et pour moi, le souci avec ça, c'est que... après, les persos de Ruby, eux, vont être gratos, donc c'est tous les autres persos. Donc, Undernight in Bird, Persona et BlazBlue qui seront payants. Mais le truc qui m'énerve, c'est qu'ils ont déjà découvert qu'en fait, il allait y avoir une deuxième vague de DLC derrière avec
encore d'autres persos,
9 personnages supplémentaires. Donc, il va encore falloir probablement repayer 20 balles. Donc, ça amène un jeu à 80€ qui, comme on l'a dit de base, n'est pas hyper sexy, n'a pas grand-chose à offrir, hormis son gameplay qui est vraiment chouette. Donc là, je suis un peu en mode... qui il est ce jeu en fait, parce que on n'est probablement pas assez de joueurs hardcore ou fans de ces licences pour s'y mettre. Y a pas grand chose pour les fans, c'est pas un très bon jeu de fans en fait, parce qu'il y a pas grand chose dedans. Donc c'est un jeu pour les joueurs de jeux de baston, mais comme les personnages sont un peu estropiés, notamment surtout les personnages de BlazBlue ont pris cher en termes...
Ils prennent cher sur les manips. Voilà.
Sur les manips et
50% de tes coups, quoi.
Ils perdent 50% à peu près de leurs coups, etc. Parce qu'on le rappelle, BlazBlue, c'est quand même un jeu à 3 boutons normaux, plus le bouton de drive dans lequel il y a tous les pouvoirs spéciaux. Undernight in Bird, ça va, parce que c'est un jeu...
C'est exactement cette mécanique-là.
Voilà, c'est le même layout de boutons. Persona, honnêtement, ils perdent aussi quand même des trucs, même si ça va. Donc... il y a un côté genre perso estropié, dans un jeu certes fun, mais que tu prends finalement très vite en main, donc qui est plutôt pour des fans de jeux de baston qui vont vraiment le creuser, et il y a plein de choses vraiment pétées, de choses amusantes. Donc c'est pas un jeu, comment dire, raisonnable pour des gens, enfin dans le sens qui joue très raisonnable, tu vois, c'est-à-dire c'est très injuste un petit peu comme jeu des fois. Tu peux le ressentir comme ça. Et finalement, il est pas assez complet pour les fans. Il n'est pas assez complet pour les joueurs de jeux de baston, parce qu'il n'y a pas tous les persos, il va falloir encore payer. Donc il est pour qui ? Et c'est un peu ça que je me demande en fait avec ce jeu. C'est, est-ce que c'est pas un
mauvais choix de positionnement ?
Est-ce que c'est pas un... Ouais, est-ce que finalement ils n'ont pas raté le coche, quoi ? Est-ce qu'ils auraient peut-être dû faire un jeu plus de fans ? Tout comme SNK fait avec SNK Tag Team Frenzy, où vraiment ils ont tout changé dans le gameplay en se disant c'est pour un autre public. Ou est-ce qu'ils auraient dû faire un jeu beaucoup plus hardcore dès le début, et donc par exemple zapper tout ce qui est mode histoire, tu vois, je sais pas.
Alors voilà. L'histoire justement a l'air de te donner raison, parce que les chiffres de vente, je voudrais qu'on conclue là-dessus, sont vraiment pas super, pour pas dire catastrophiques. Au Japon, c'est 15 000 unités vendues. Sur le reste du monde, on va dire, les chiffres Steam qu'on a pu avoir en estimation, ça va être aux alentours de 25 000 unités, donc on va dire 40 000 unités en tout. C'est vraiment pas fou pour un jeu qui espère se développer sur ses DLC, quoi.
Alors après, le truc, c'est que les 15 000 au Japon, c'est 15 000 physiques. Donc on ne sait pas encore la part de dématérialiser. Et n'oublions pas aussi que le jeu sort sur Switch. Donc il nous faut aussi les chiffres Switch. Et la Switch a tendance à vendre à peu près bien tout n'importe quoi. Et je pense que sur Switch, pour avoir un succès, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est un jeu qui est plus facile à jouer à la manette qu'au stick arcade, quasiment. Donc n'hésitez pas à y jouer à la manette. Je sais pas si c'est une réussite.
Je pense que le public Switch pourrait être le game changer.
Je sais pas. En toute honnêteté, il y a tellement aujourd'hui de... Enfin, la Switch, c'est devenu la console des jeux japonais, des jeux rétro et ce genre de choses. Donc pourquoi pas, tu vois. Quand je vois que Ultra Street Fighter 2 s'est vendu aux dernières nouvelles à 900 000 exemplaires, il a dû faire plus d'un million maintenant. Je me dis, si Ultra Street 2 se vend un million, il y a peut-être un moyen, comment dire, de faire... un petit 100 000, un petit 50 000, etc. Puis tu sais, avec toutes les plateformes, d'arriver à 100 000, 200 000 ventes, et dans ce cas, t'es bien quoi pour un jeu patron.
Oui, parce qu'ils ont pas non. Enfin, tu le disais, vu que c'est un jeu, on va dire, de recyclage, il n'y a pas non plus masse d'investissement. Donc là, si perte il y a, c'est pas non plus un développement.
Tout l'investissement, tout le développement, on va dire, c'était du développement pur, donc du code. C'était du code, du game design et du test. Voilà. Donc clairement. Ils ont économisé sur tout ce qui est création graphique, donc évidemment,
c'est
coûte moins cher. Voilà.
Ok. Bah, je te remercie, Nathan, pour cet échange autour donc, de ce BlazBlue Cross-Tag Battle. On espère que ça vous aura un peu éclairé sur ce jeu assez atypique, finalement, dans le paysage.
C'est très, très atypique, effectivement. Un bon jeu, hein, clairement, un bon jeu. On sonne négatif, mais quand on y joue, c'est un bon jeu. Je pense qu'on est d'accord là-dessus.
Ouais, moi, j'aurais tendance aussi à le recommander, surtout si
pareil.
On cherche un petit jeu en off, pas le truc qu'on va main tout le temps, mais de temps en temps, se faire une petite partie au pif, c'est plutôt sympa.
Ouais, carrément. Ouais. Après, voilà, comme on dit, on le recommande si vous êtes un joueur, si vous êtes juste un fan ou vous êtes moins chaud.
Vous risquez d'être déçu.
Voilà, en tant que produit, finalement, c'est un peu raté. En tant que jeu de baston, c'est très réussi. Voilà.
C'est sur ces sages paroles qu'on va se quitter. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous prochainement sur l'antenne de Bagropoint pour le pif de l'actu et puis d'autres numéros de First Attack. Merci à tous.
Salut.